autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
En quoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation, dans l'œil à facettes d'un papillon, avec des oreilles radars de chauve-souris, pour ressentir le monde avec chacune des tentacules d'une pieuvre, ou grâce au flair d'un chien, pour vibrer sur une toile d'araignée et nous orienter en dansant avec les abeilles. Comme il nous semble étrange, tous ces univers sensoriels des autres animaux qui ont souvent bien plus, bien mieux que nos cinq sens, et qui n'ont de bête que le nom qu'on leur donne. Notre invité, le biologiste, docteur en sciences cognitives et sociologue des sciences, Benoît Grison, nous ouvre les portes de la perception animale. C'est le titre de son dernier ouvrage, Inouï, insensé et génial, paru aux éditions Delachaux et Niestlé. Autour de la question, comment les autres animaux perçoivent le monde? Est-il possible de s'en faire une idée? Bienvenue pour commencer par butiner en ce lundi 26 avril dans l'œil d'un papillon.
On verrait plein d'images.
Dans l'œil du papillon?
Ça ferait boule à facettes. Dans l'œil du papillon, on se verrait comme une sorte de boule à facettes, avec plusieurs images reconstituées, parce qu'en fait, un œil de papillon, c'est plusieurs petits yeux simples qui, après, le cerveau recompose une image sur pratiquement les 360 degrés. Parce qu'il a quand même, en fonction des espèces, des yeux qui sont vraiment assez gros, proéminents, et qui peuvent voir dans toutes les directions.
Dans l'œil du papillon avec le lépidoptériste Franck Marlier, pour voir dans toutes les directions, ou encore mieux dans l'œil du poulpe, du calmar architeutis, gros comme un ballon de volley-ball. C'est évidemment un autre monde, d'autres univers sensoriels que vous nous ouvrez, Benoît Grison, bonjour.
Absolument, bonjour Caroline. C'est vrai que c'est ce qu'on appelle des Umwelt, c'est-à-dire des univers sensoriels, comme disait le biologiste allemand von Weichsel, des niches écologiques sensorielles. Chacun dans son monde, oui, mais ces mondes sont aussi interconnectés, ne serait-ce qu'entre proie et prédateur. La victime, la proie, doit pouvoir échapper au prédateur et comprendre un peu son monde sensoriel. Et inversement, le chasseur doit comprendre un peu l'univers sensoriel du chassé.
Alors merci de nous faire partager justement les autres univers sensoriels. Et il y en a, la diversité est incroyable. Merci d'abord d'être en direct, hein, en présentiel, en chair et en os, j'ai envie de dire, avec nous.
Incarné, on va parler de cognition incarnée avec
les
sens, ben, nous y sommes.
Pour nous ouvrir donc les portes de la perception animale, c'est le titre de votre dernier ouvrage qui vient de paraître donc chez Delachaux et Niestlé. Précisons tout de suite, Benoît Grison, que l'empêcheur de penser en rond que vous êtes, j'ai envie de dire le drôle d'animal que vous êtes, biologiste et sociologue des sciences, directeur, docteur en sciences cognitives et enseignant-chercheur à l'Université d'Orléans, a le choix effectivement pour nous entraîner aux limites de notre perception, mais aussi de nos imaginaires. Vous avez le chic pour ça. Nous avons eu le plaisir de vous recevoir autour du Yeti, du Mokelebembe et du calmar géant. Ça, c'était votre précédent ouvrage de cryptozoologie consacré à ces animaux mythiques, hein, entre légendes, voilà, entre légendes et réalités. Cette fois-ci, c'est vraiment de réalités, d'autres réalités,
voilà.
Vers lesquelles vous nous entraînez. Des réalités multiples, celles des autres animaux et de leur perception. On va le comprendre, nous vivons tous, enfin chacun d'entre nous, dans un monde de perception. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a autant d'univers sensoriels qu'il y a d'espèces, voire même d'individus, Benoît Grison?
Alors oui, en ce qui concerne les espèces, c'est-à-dire qu'effectivement, une puce, par exemple, qui est capable de sauter à 10 cm de haut, ce qui correspond à un saut qui serait de 100 mètres de notre part par rapport à la taille de notre corps, ce qu'on n'est pas capable de faire.
Non.
Elle a une perception de l'espace complètement différente. Et puis, elle vit dans un univers d'odeur. Elle repère à grande distance, à des mètres et des mètres, l'odeur de l'autre, le chien ou le chat, etc. Donc, oui, chaque espèce vit dans un univers sensoriel, une niche écologique sensorielle particulière. Et alors, quand la cognition, c'est-à-dire l'ensemble des processus de perception, de compréhension du monde se complexifie, on peut dire que chaque individu a son propre univers subjectif. C'est au moins le cas chez les individus humains. Mais en tout cas, chaque espèce a sa propre niche sensorielle. Et parfois, elles sont interconnectées, parfois non.
c'est ça, interconnectés ou pas, des sortes de mondes parallèles, un peu des bulles, on y reviendra, qui sont interconnectés. Alors, précisons aussi que votre ouvrage, Les Portes de la Perception Animale, est très joliment, joyeusement, malicieusement illustré par Arnaud Raphaëlian, ce qui apporte des contrepoints et qui, moi, m'a fait bien rire en lisant cet ouvrage.
Oui, c'est vraiment un contrepoint, comme vous le dites, parce que Arnaud Raphaëlian est à la fois un grand illustrateur naturaliste, mais bon, un humoriste très tongue in cheek, comme disent nos cousins, nos voisins d'Outre-Manche. Hein, il y a toujours ce pas de côté humoristique qui aide à mieux comprendre certains processus biologiques complexes que je m'échine à expliquer dans le livre.
Et, donc, et avec un dessin, finalement, c'est fait. En tout cas, illustration parfaite de ces mondes parallèles. Vous commencez dans la savane de la province de Limpopo en Afrique du Sud. C'est votre introduction où se côtoient la nuit girafes, oiseaux, singes, chacun dans leur monde, chacun avec leurs propres signaux.
Oui, mais un souvenir de voyage.
Qui interagissent, c'est ça. Et alors, si on a un peu de chance ou un peu de malchance, je ne sais pas. On peut aussi apercevoir un étrange mammifère fouisseur aux grandes oreilles et à l'odorat particulièrement développé pour le meilleur, mais aussi pour le pire. C'est l'Oryctérope. Si vous ne connaissez pas, description in situ depuis le Gabon par Joseph Okouyi, grand spécialiste de la faune, des forêts et des parcs nationaux du Gabon.
L'Oryctérope, c'est vraiment un animal, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Ça a la tête d'un cochon, mais ce n'est pas un cochon. Et ça a le corps d'un pangolin géant. Voilà, c'est une espèce assez... Elle est assez présente dans nos forêts, mais elle est très, très difficile à observer. Et pour la petite histoire, les pygmées, pour chasser le rictéro, parce qu'ils vivent dans des terriers, donc ils savent que l'animal est dans le terrier, et ils essayent d'ouvrir le trou pour aller le choper. Mais le problème avec le rictérope, c'est qu'il a des gaz assez toxiques, si on peut dire. Et donc, on a des chasseurs pygmées qu'on a retrouvés morts, asphyxiés, dans le terrier en essayant d'attraper le rictérope. Donc voilà, donc, faire attention. Et pour vous dire à quel point cet animal est dangereux, même les crottes de rictérope, c'est un poison hyper puissant. C'est un animal qui a une digestion assez partielle. Donc, les crottes sont très riches en ammoniac. Et donc, quelqu'un peut très bien empoisonner quelqu'un en juste prenant la crotte sèche et mettre dans un verre.
L'Oryctérope et ses pouvoirs particulièrement nauséabonds, Benoît Grison. Avez-vous eu la chance, je sais pas, ou la malchance de l'apercevoir,
moi,
de le sentir au loin?
Je l'ai pas vu. Quand je décris comme ça la savane de Limpopo, c'était un voyage, hein, il y a 10 ans, pour raisons professionnelles. Et non, j'ai fait chou blanc, hein, comme on dit vulgairement, c'est-à-dire avec les gens qui m'accompagnaient, notamment à l'équipe d'un documentaire. On a regardé longuement un trou d'Oryctérope qui n'était pas très loin de l'endroit où on résidait. Hein, dans ce parc de Sandela, on n'a jamais vu l'Oryctérope sortir. Mais c'est pas étonnant. Et il faut énormément de patience, parfois du courage, comme on voit avec les pygmées. Et ce sont des animaux, effectivement, multisensoriels, parce qu'il y a ce groin qui est extrêmement tactile, une très longue langue, comme beaucoup de mammifères insectivores qui éventrent les termitières, les fourmilières. Et puis, bien sûr, un odorat hypertrophié. Hein. On dit que l'Oryctérope est macrosmatique. On pense que c'est un des mammifères qui ont parmi les odorats les plus développés. D'ailleurs, ils ont un organe voméronasal qui joue beaucoup aussi dans les phéromones d'autres mammifères hypertrophiés, et puis un très grand museau.
Alors, vous parlez de phéromones, donc de molécules odorantes. Nous, on a 5 sens, on a un nez. Oui. Enfin, franchement, comparé à l'Oryctérope et même aux chiens,
on n'est pas l'ours, bon.
Ou à l'ours. L'ours.
Oui, parce que nous, on a muqueuse olfactive, une fois dépliée, qui fait 4 cm carrés. Le moindre petit chien, c'est 20 fois plus. Et ne parlons pas des grandes races. Et l'ours, semble-t-il, est encore plus macrosmatique. C'est encore plus un nez, entre guillemets, que le chien. Donc, oui, on est un petit peu quand même handicapé d'un point de vue olfactif, même si on a revu à la hausse notre olfaction, parce qu'on a un cerveau qui traite tellement bien les données olfactives qu'en l'entraînant, on peut décoder beaucoup de choses. C'est le cas des nez des parfumeurs, bien sûr. Hein, je citais cette expression de nez tout à l'heure. Bien c'est sûr. Le cas aussi, comme le montrent d'anciennes études ethnographiques, de certains peuples chasseurs-cueilleurs qui, quand le vent est favorable, arrivent à sentir à distance des odeurs spécifiques, et ça a été montré hein, en Papouasie-Nouvelle-Guinée notamment, d'animaux qui veulent chasser. Mais c'est une question d'entraînement, d'apprentissage, et là on se sert largement autant de notre cerveau, notre cortex sensoriel, pour sentir que de notre nez lui-même, que de notre bulbe olfactif, on compense un peu nos limitations de nez, par les capacités de traitement fin cérébral.
Mais c'est ça aussi qu'on découvre, c'est que non seulement, alors nous on parle de nos 5 sens, donc l'odorat, l'ouïe, la vue, le toucher, Et il m'en manque un. Louis, la vue, le toucher, le goût. La vision. Et la vision, voilà. Et le toucher. Mais en même temps, à chaque fois, tout ça, ce sont des... Comment dire? Ça passe par notre cerveau. Et chez les animaux, c'est pareil aussi. C'est-à-dire que c'est une... on observe un monde qui existe bien sûr, mais que l'on perçoit à travers nos sens et que nos sens mettent en avant, éclairent d'une certaine manière.
Oui,
c'est ça,
en fait, nos sens, c'est pas des espèces de filtres passifs comme une certaine tradition philosophique qui remonte à Aristote, hein, ce grand philosophe grec, le voulait. Nos sens, c'est déjà de la cognition. Il y a vraiment, grâce à nos sens, le début d'un traitement cognitif, une connaissance du monde, de l'univers qui nous entoure. Donc, il ne faut surtout pas sous-estimer le rôle de nos sens dans notre cognition. C'est pour ça, d'ailleurs, que selon le type de sens qu'on a, on a une cognition, une représentation complexe du monde qui nous entoure très différente. Le poulpe n'a pas la représentation du monde que nous avons, nous, ou qu'a notre chien. Notre chat.
Ça, c'est assez fascinant. Hein. Quand on lit votre livre, vous venez de parler des poulpes. Alors justement, autour de la question comment les autres animaux perçoivent le monde, c'est peut-être l'univers sensoriel qui est le plus fascinant pour nous, celui du poulpe.
Très dépaysant.
Très dépaysant. Le calmar, même s'il n'est pas géant, comme vous l'avez étudié, a vraiment de quoi nous interpeller. Sa sagesse, la sagesse du pieuvre, vient d'ailleurs de recevoir, c'est à Hollywood, l'Oscar du meilleur documentaire.
Oui,
c'est à voir sur Netflix, hein, La sagesse de la pieuvre, film documentaire sud-africain dont le titre original est My Octopus Teacher, mon professeur pieuvre, ou calmar, et qui montre l'étrange lien qui unit un plongeur en apnée, Craig Foster, un peu dépressif, et que son ami, la pieuvre, va sortir de la dépression. Alors, on connaissait déjà Oscar le Poulpe et ses pronostics fantastiques.
Paul le Poulpe, je crois. Mais enfin,
Paul le Poulpe.
Oui.
Pourquoi j'ai renommé Oscar?
Je ne sais pas, mais c'est pas grave.
C'est ma réalité qui m'a fait faire ça. Mais en fait, la réalité des calmars, des poulpes, des seiches et autres céphalopodes dépasse de loin la fiction et même la science-fiction. Je vous propose, Benoît Grison, avant de vous laisser parler des poulpes, d'écouter ce que nous en disait le chercheur Ludovic Dickel, que vous connaissez.
Je connais ses travaux, je ne le connais pas personnellement.
Qui travaille à l'université de Caen sur la mémoire des seiches, mais aussi sur les systèmes nerveux ô combien complexes des poulpes, qui, on le rappelle tout de même, n'ont pas deux bras ou quatre pattes, mais 8 tentacules. On écoute Ludovic Dickel.
Volontiers. Quand on fait ami-ami avec un poulpe et puis qu'on lui serre la main, on sent chaque ventouse qui va explorer chaque anfractuosité de la peau. C'est tout à fait spectaculaire. On a l'impression que chaque ventouse est autonome. Donc, on imagine la quantité d'informations qui doit parvenir au cerveau. C'est très, très compliqué à intégrer.
Et on peut dire que leurs neurones sont autant dans leur cerveau que dans leurs tentacules. Enfin, c'est un peu ça.
Ce qu'on pense, c'est que c'est un système qui nécessite un nombre de neurones absolument considérable, évidemment. Et puis, en plus, c'est un système nerveux qui est un petit peu délocalisé. En ce sens que le cerveau central qui se trouve entre les deux yeux va s'occuper des décisions un petit peu importantes du corps, je vais là, et puis ou la mémoire, etc. Et puis il y a un certain nombre de petits cerveaux, des ganglions, qu'on va retrouver au niveau des bras, et puis au niveau de chaque ventouse. Et puis en fait, on pense que chaque ganglion a une position hiérarchique bien définie. Et en fait, il y a un filtrage des informations qui se fait de l'extrémité du bras jusqu'au cerveau, qui permet en fait au cerveau de ne pas avoir trop d'informations à gérer, que ce soit d'un point de vue de ce que l'animal ressent, ou d'un point de vue moteur. Donc les bras sont un petit peu autonomes.
Donc l'animal ressent, vous dites, c'est vraiment ressentir ce terme-là pour les céphalopodes, pour les pieuvres, il est évident, ils ressentent avec toutes les tentacules de leur peau. Ils ont quoi comme sens? Donc la vue, on l'a dit, le toucher est fondamental, enfin bien plus que nous. Ils entendent aussi les poulpes?
Les poulpes entendent, alors sur les fréquences qui sont très basses. Donc on le voit très très bien quand on a un poulpe en élevage, quand quelqu'un marche à côté d'un aquarium, on les voit changer de couleur. Les changements de couleur pour nous sont très pratiques. Si on veut savoir ce qui se passe dans le cerveau d'un poulpe, il suffit de le regarder et puis on a une image de, pas de ce qu'il pense, mais on sait s'il pense des choses ou pas. Donc ils sont sensibles au son, ils sont sensibles à la lumière, ils ont un sens du toucher qui est extrêmement aigu. Dans leurs bras, ils ont à peu près un sens du toucher dans chaque ventouse qui correspond à l'extrémité de nos doigts à nous. Donc ça fait beaucoup, beaucoup d'informations. Et ils goûtent aussi avec leur ventouse. Ils sont en relation, en symbiose sensorielle avec leur environnement, beaucoup plus que nous.
Donc c'est une sacrée expérience que de serrer la main, la ventouse, pardon, excusez-moi, d'un poulpe.
C'est une expérience pour nous, mais ça doit être aussi une sacrée expérience pour le poulpe.
sacrée expérience, effectivement, oui. pour les deux, pour le poulpe et pour l'humain.
Le collègue qui est un grand spécialiste du système nerveux des céphalopodes résumait bien les choses, c'est-à-dire que c'est un système nerveux décentralisé, distribué, comme on dit, en une sorte d'anglicisme, le poulpe ou le calmar, etc. Et s'il y a un animal qui pense avec tout le corps, c'est bien le poulpe, y compris en ce qui concerne la vision.
Hein. Oui, oui.
Parce que la vision des couleurs, par exemple, a été longtemps déniée au poulpe, ce qui paraissait un peu absurde comportementalement, parce que, comme il vient d'être dit, le poulpe communique beaucoup émotionnellement à travers ses changements de couleurs. Donc comment se fait-il...
rougit, verdit.
Voilà, voilà. Et comment se ferait-il qu'il joue sur ses chromatophores, hein, ces cellules qui permettent des colorations diverses, si ça n'était pas perçu par les autres, même si ce n'est pas un animal à proprement parler social, loin de là. Eh bien, maintenant on sait que la forme de sa pupille en W et sans doute certaines cellules des bras du poulpe, de ses 8 bras, permettent de percevoir les couleurs. Notamment, la pupille en W permet-elle un prisme de décomposer la lumière blanche ? Et puis plus généralement, c'est ça, hein, c'est ce que disait le chercheur qu'on entendait, il goûte avec ses bras. Il y a certaines décisions qui sont prises directement par des ganglions nerveux, des centres nerveux délocalisés de ses bras, et non pas par son cerveau qui comporte beaucoup plus de lobes que celui des vertébrés. C'est un animal extraordinaire et qui est sans cesse en interface avec son corps, avec le monde, et qui perçoit vraiment le monde avec tout son corps. Mais cela dit, même nous, les vertébrés, on perçoit le monde avec tout notre corps.
Et oui, parce qu'on l'oublie souvent. On voilà. dit notre cerveau. En fait, oui. là, moi, je vous regarde, je vous vois. Oui. Et je suis moi-même en train de bouger les bras parce voilà. que je parle. On ressent le monde, on se représente le monde avec nos sens et avec tout notre corps. C'est incarné aussi.
Ah,
pas
oui.
autant que les poulpes, mais quand
Peut-être
même.
Peut-être moins, mais quand même incarné. Et effectivement, quand Albert Einstein, paix à l'âme de ce très grand scientifique, disait « l'être humain, c'est un cerveau sur deux jambes », non. C'est-à-dire que l'être humain, c'est un être en fait qui pense avec tous ses sens. Et on oublie par exemple la perception de notre corps dans l'espace, la perception de nos muscles, nos tendons, etc. Sans ces perceptions-là, on ne pourrait pas penser, on ne pourrait pas percevoir et construire nos pensées et nos émotions.
On n'est pas du tout un cerveau dans un bocal et on
non,
parlait
voilà.
des poulpes et des, c'est ça hein, et on parlait des poulpes et des pieuvres à l'instant. Théodore Monod, magnifique biologiste de terrain
que j'ai bien connu, oui oui, qui avait une fascination pour les céphalopodes.
Mais absolument. Et il disait même que finalement le candidat pour remplacer l'humain,
oui.
si tant est que l'humain est en haut de l'échelle de l'évolution, ce avec quoi vous n'êtes pas d'accord, mais le candidat pour remplacer
oui.
l'humain, ben ça pourrait être le poulpe.
Oui, alors il reprenait une vieille idée qui venait d'Herbert George Wells, qui est certes un auteur science-fiction bien connu, mais qui était aussi un zoologiste de formation. Et c'est vrai qu'il y a une convergence, en tout cas, de la vision des poulpes et des calmars et celle des vertébrés, ce qui est extraordinaire pour un invertébré, entre guillemets. C'est vrai qu'il y a une cognition très développée chez la pieuvre.
Oui, il y a le même genre d'œil, alors que c'est pas le...
oui.
on n'est pas du tout les mêmes...
Voilà,
dans la
on n'est pas dans les mêmes lignées.
Voilà.
Après, il y a des gènes très anciens qu'on appelle gènes architectes, qui sont communs à l'ensemble du monde animal et qui ont quelques centaines de millions d'années. Mais l'idée de Théodore Monod, c'était cette cognition extraordinaire du poulpe. Si on n'est pas en troupeau-centrique, si on ne se place pas au sommet de l'évolution... ce qui se refusait aussi à faire, Monod, eh bien, pourrait cette cognition du poulpe mener un jour à une évolution qui supplanterait l'homme. Alors, on peut toujours faire une objection, c'est que le milieu aquatique limite pour ce qui est de développer des outils.
C'est plus compliqué
développer,
sous l'eau. Il faudrait d'abord qu'ils sortent de l'eau,
des techniques,
poulpe.
Des cultures. Il faudrait déjà qu'ils sortent de l'eau pour développer des techniques culturelles. Cela dit, précisément, on ne va pas se contredire, comme il a une cognition extraordinaire, il est capable parfois d'utiliser certains objets comme outils. Hein, quand il se réfugie, par exemple, sous une demi-noix de coco, comme dans le Pacifique, pour une certaine espèce, pour se protéger des prédateurs, c'est pas mal.
Autour de la question, comment les autres animaux perçoivent le monde ? Alors, vous aviez envie, Benoît Grison, de nous jeter musicalement, s'entendre dans les bras des poulpes, ou plutôt dans leur
oui.
jardin musical avec l'Octopus Garden des Beatles.
Bien connu.
On a plutôt choisi votre autre choix musical, c'est de s'envoyer en l'air avec les chauves-souris, avec Prince,
ça
évidemment,
fait.
Batman sur RFI.
Voilà.
I like Batman.
Hi, Bruce Wayne. I tried to avoid all this, but I can't.
I just gotta know, are we gonna try to love each other?
Stop the press. Who is that?
Vicki Vale.
She is great, isn't she?
Ooh, yeah. Ooh, yeah. devil in the pale of light. I always ask that of all my prey. I just like the sound of it.
In the computer.
Fait son show sur RFI avec Batman. Ou comment la chauve-souris, ses mains ailées, sa capacité incroyable d'écholocation ont toujours inspiré les humains. Et pour cause, autour de la question comment les autres animaux perçoivent le monde. Nous sommes donc en votre compagnie, Benoît Grison, vous qui nous ouvrez les portes de la perception animale dans votre dernier ouvrage. La chauve-souris tient évidemment aussi une place de choix, car son univers, comment dire, est à la fois si proche et si différent de nous.
Voilà,
ses mains,
mammifère.
Ce sont des ailes, et elle entend avec ses yeux. C'est un mammifère. Ses mains sont des ailes et elle entend
avec ses oreilles. Absolument,
hein,
mais on a du mal justement.
Oui. C'est pas elle entend avec ses yeux.
Des formulations pareilles, tellement c'est dépaysant. À tel point qu'il y a un philosophe américain en 1975, Thomas Nagel, qui a lancé un questionnement qui est tout sauf anodin. Qu'est-ce que ça fait de vivre et de percevoir dans un corps de chauve-souris? What is like to be a bat? C'est difficile de le savoir, mais on commence quand même à le comprendre par les moyens détournés de la science qui nous permettent de dépasser nos limitations sensorielles d'être humain. Et alors, toutes les chauves-souris ne sont pas très myopes ou quasi aveugles. Hein. Parfois, elles jouent sur les deux tableaux de la vision et de l'écholocation. Mais effectivement, grâce à leur perception des ultrasons, on peut dire qu'elles voient avec les oreilles. Hein. Elles peuvent percevoir des fréquences qui vont de 10 000 Hz à 200 000 Hz, donc très au-dessus de 20 000 Hz, on est vraiment dans les ultrasons. Elles émettent des ultrasons pour les faire rebondir sur l'environnement et en fonction des échos se représenter le monde. Et il y a certains sonars de chauves-souris qui sont plus sophistiqués que les sonars high-tech de l'être humain. Et alors on comprend que dans un certain nombre de cultures d'Afrique noire, on associe la chauve-souris au discernement. Symboliquement. La chauve-souris est capable d'y voir clair là où nous, on ne voit rien.
Dans le noir.
Et oui, elle est capable d'entendre là où on n'entend rien.
Bien sûr. Bon.
Et c'est donc un animal tout à fait extraordinaire. Et on a découvert récemment que certaines espèces sont capables aussi de se servir des poils de leurs ailes et de leur abdomen comme anémomètre, c'est-à-dire comprendre la vitesse de courant d'air pour mieux s'orienter. Et ça, grâce à des poils. Donc ça, là aussi, ça montre bien l'actualité de l'interrogation de Thomas Nagel. C'est quoi de percevoir dans un corps de chauve-souris? C'est difficile à comprendre.
Et justement, est-ce qu'on peut s'imaginer? Parce que finalement, ce n'est pas le but de votre ouvrage. Enfin, on se rend compte un petit peu aussi quand même, ce sont des univers sensoriels insensés. On a envie d'essayer de s'imaginer, mais ça paraît aussi impossible d'être dans la peau d'une chauve-souris. Justement.
Oui, ou dans la peau, alors on pourrait dire de la même façon, d'une chouette lapone. Parce que la chouette lapone...
Une chouette lapone.
Voilà, la chouette lapone, et comme son nom l'indique, qui est fréquemment rencontrée en Laponie, en Scandinavie, dans les forêts boréales, elle le chasse de jour comme de nuit. Et cette chouette est capable de conjuguer, quand elle chasse un petit mulot, un petit campagnol, qui est sous les feuilles mortes, par exemple, en automne, elle est capable de conjuguer les informations sensorielles de type acoustique, parce que ce petit animal, ce petit rongeur, fait du bruit sous les feuilles mortes, et des informations visuelles, les feuilles mortes qui bougent. Elle est capable de croiser ces deux types de stimuli, visuels et acoustiques, pour se faire une représentation précise à chaque instant de où est le campagnol, même si elle ne le voit pas directement. Donc on peut dire qu'elle voit en entendant, ou elle entend en voyant. Et ça lui est permis par des cellules nerveuses de traitement sensoriel qui sont dans le cerveau moyen, qui permettent de traiter en même temps les stimuli auditifs et les stimuli visuels. Et c'est très difficile de se dire, mais alors... Comment elle se représente le campagnol en déplacement? Nous, on se représenterait visuellement.
Absolument. Nous, on est plutôt
visuels. Elle a des représentations qu'on ne peut pas appeler image mentale, parce que ça serait une contradiction dans les termes, qui sont à la fois imagées et acoustiques. de la position à chaque instant du campagnol sous les feuilles mortes. Bon, c'est très difficile de se représenter ça. De la même façon, le pigeon qui retrouve le pigeonnier à la fois à travers des stimuli olfactifs, visuels et des variations de champ magnétique terrestre.
Oui, mais c'est ça aussi chez les oiseaux.
Voilà, on a aussi ça chez les oiseaux migrateurs. Et ben, à chaque instant, ce type d'oiseau se fait une représentation cognitive de son trajet qui n'est pas visuel, imagé comme nous autres pauvres êtres humains avec nos limitations, mais qui est à la fois olfactive, qui est à la fois tenant compte d'indices visuels et de variations du champ magnétique terrestre selon la latitude. C'est extraordinaire. Mais c'est quand même difficile à imaginer.
C'est difficile à imaginer. Qu'est-ce qui se représente, le pigeon ? Alors, est-ce qu'on peut se mettre dans la peau, dans le cerveau, dans l'œil d'un pigeon ?
Oui, dans son corps. Ah, difficile. Tout ce qu'on peut dire, c'est que le pigeon est un synesthète. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, synesthète ? C'est qu'il fait des synesthésies, c'est-à-dire qu'il croise des modalités sensorielles différentes pour en faire la synthèse et se faire une représentation mentale. Et pourquoi le pigeon est un synesthète ? Parce qu'il a des cristaux de magnétite dans le bec, dans l'œil. Et ces cristaux de magnétite, si vous voulez, alliés à des cryptochromes, des pigments, permettent de traduire les variations de champ magnétique terrestre en représentation visuelle. C'est bizarre.
Il voit le c'est comme s'il voyait
les variations
champ
du champ terrestre.
Magnétique terrestre.
Et ça l'aide, bien sûr, à retenir son orientation pour retrouver le pigeonnier. Mais là encore, un simple pigeon, ce prétendument vulgaire pigeon, il faut vraiment se moquer de l'idée du fait qu'un organisme serait banal. Rien n'est banal pour le regard scientifique, si on fait un pas de côté. Ben, ce pigeon est extraordinaire et a une vision du monde qui a de quoi nous laisser pantois.
Et ben voilà, qui a laissé pantois précisément un éthologue, professeur d'écologie au département des sciences biologiques de l'Université du Québec à Montréal, Luc-Alain Gilardeau, qui s'est mis dans la peau ou dans l'œil d'un pigeon, dans un ouvrage lui aussi assez extraordinaire, Dans l'œil d'un pigeon, paru aux éditions du Pommier il y a quelques années, où l'on comprend notamment pourquoi les pigeons ont cette démarche, vous savez, un peu étrange, si comique, en dandinant toujours de la tête et du cou.
Toujours rire les enfants dans l'histoire.
Exactement. Écoutez voir ce qu'on disait ici même, Luc-Alain Gilardeau.
Si jamais vous prenez un pigeon dans vos mains et vous le faites avancer sans qu'il marche, à la vitesse où il marche, il va faire le même comportement. Il va hocher de la tête. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est lié à ses pattes, c'est lié avec la vitesse du mouvement. Et donc, lorsqu'il avance à cette vitesse-là, il prend des espèces de photos et il fixe l'image. Donc, lorsque la tête recule, et là, hop, rapidement, il avance la tête de nouveau, prend une nouvelle photo, et c'est comme ça qu'il réussit à intégrer le mouvement des objets autour de lui.
Il fonctionne par espèce de petits instantanés, de petites photos, et ensuite, il va prendre ce qu'il veut prendre, la miette de pain en l'occurrence.
Exactement. Ou... Mais lorsqu'il va très rapidement, lorsqu'il vole, si vous avancez, vous tenez toujours le pigeon, vous faites avancer beaucoup plus rapidement, le hochement disparaît. Parce que là, ses yeux sont capables de comprendre le mouvement des objets autour de lui et de l'intégrer pour que ce soit un mouvement, comprendre son déplacement. Parce que finalement, c'est compliqué pour le cerveau de comprendre lorsque les objets bougent sur la rétine de notre œil, est-ce que c'est nous qui bougeons ou les objets qui bougent? Et donc, il faut faire une certaine intégration et le pigeon le fait comme ça, lui.
Voilà comment fait le pigeon, oui. Benoît Grison. Et Luc-Alain Gilardeau, il a même inversé la proposition. Et finalement, il s'est vu dans l'œil du pigeon. Et il le raconte d'ailleurs de manière assez drôle. Il s'est retrouvé face à un pigeon. Il s'est dit, mais comment le pigeon me regarde ? Pour le pigeon aussi, je dois être un être très bizarre.
Bien sûr, cette décentration, elle est très importante hein, quand on étudie la cognition et la perception animale. Alors, c'est vrai que le pigeon illustre bien le fait que à la fois, il a des capacités sensorielles que nous n'avons pas et il est dépourvu de capacités sensorielles banales pour nous. Nous, en fait, quand on est en mouvement et qu'on voit des objets en mouvement, on a ce qu'on appelle le réflexe optocinétique. L'œil s'adapte par ses mouvements ou au mouvement de notre corps et notre œil s'adapte aussi au mouvement des objets qui nous entourent. Lui n'a pas ce réflexe optocinétique. C'est pour ça qu'il est obligé par moment de figer, geler sa tête pour prendre des instantanés. Bon, alors on peut dire, oh ben alors, quelle limitation hein. Autrefois, vous savez, en biologie animale, on classait les animaux de façon ascendante, même si on ne prétendait pas forcément être au sommet de l'évolution. Mmh. Et on parlait de vertébrés inférieurs, ce qui n'était pas le cas pour les oiseaux. Mais il nous est inférieur en rien, parce que ce qu'il est capable, je le parlais tout à l'heure, de faire pour retrouver son pigeonnier en conjuguant tout un tas de modalités sensorielles, visuelles, de sensibilité magnétique, etc., etc., ou olfactive, nous en serions totalement incapables.
Donc, nous y arrivons avec des instruments, c'est ce que vous dites aussi, et qu'on peut d'ailleurs pénétrer le cerveau, l'univers fonctionnel des autres animaux grâce à des instruments.
On parlait de culture technique tout à l'heure, on disait par boutade encore que, est-ce qu'un jour les poules pourront une culture technique ? Eh bien, bon, l'être humain ayant développé la culture qui existe aussi chez d'autres animaux, les chimpanzés,
utiliser
chez la drosophile,
tout à fait. Eh bien, même chez la mouche drosophile.
Oui, même chez la mouche drosophile, absolument. Eh bien, nous, on a hypertrophié la culture. Et d'un coup, la culture nous a fourni des outils qui sont autant de prolongements de nos sens, des sortes de senseurs artificiels. Et dans le cadre de la science, avec les télescopes, les microscopes, y compris des microscopes ultramodernes, qui nous permettent maintenant de voir les atomes, la structure des cristaux, eh bien, bien sûr, on peut penser avoir transcendé nos limites sensorielles. Pas totalement, parce que tant qu'on n'a pas les sensations corporelles qu'a un animal, dans notre perception du monde, on a quand même du mal à s'imaginer ce qu'il perçoit.
C'est ça, autour de la question comment les autres animaux perçoivent le monde, même sans outils, comment ils le perçoivent avec leur corps, ça nous rend un peu humbles quand même, surtout quand on pense à des créatures. On n'a pas voulu s'arrêter sur elles, parce que c'est tellement évident, mais effectivement, les chimpanzés, les grands singes, les éléphants, vraiment, on est face à des capacités cognitives considérables.
Considérables. Un éléphant se reconnaît dans un miroir, ce n'est pas un test absolu, mais bon, il a une conscience de soi, tout comme la pie, parce que vous savez, la pie qui n'est jamais qu'un corbeau noir et blanc. Quand je dis ça, ce n'est pas péjoratif. Moi, j'aime beaucoup les corvidés. Et ben, c'est aussi un animal extrêmement intelligent. Mais il y a des animaux beaucoup plus inattendus qui sont capables de choses incroyables. On parlait tout à l'heure, ou plutôt on entendait le collègue québécois qui évoquait le cinéma qui est notre perception visuelle, nous autres vertébrés. C'est-à-dire que nous, c'est du 24 images par seconde.
On fait du cinéma dans notre voir, on fait du cinéma.
Voilà. Eh bien, ce cinéma neurologique, chez la mouche, c'est 200 images par seconde. Oh. Et donc, la mouche a ce qu'on dit une résolution temporelle. Elle voit beaucoup, beaucoup mieux les mouvements. Même la libellule, 170 images par seconde. Comme c'est une grande chasseresse, une grande prédatrice, la libellule, elle rate rarement sa proie grâce à cette perception du mouvement des objets, notamment des proies potentielles qui l'entourent, les moucherons, etc.
Ouais. Vive les libellules. Allez, je propose tout de suite de quitter, parce que effectivement, chez les insectes aussi, on voit qu'il y a un univers sensoriel très particulier. Mais là, on va s'intéresser à des gros animaux sous-marins. Je propose un nouvel éclairage, franchement inouï. C'est celui de François Sarano, chercheur plongeur qui a travaillé sur la calypso du commandant Cousteau et qui est aujourd'hui vraiment un des spécialistes mondiaux des cachalots avec lesquels il plonge. Les cachalots sont les champions des caresses, nous a-t-il dit, ici même dans ce studio. En nous racontant, François Sarano, comment l'un d'entre eux, car il faut parler selon lui d'individus avec des approches différentes, comment un jeune cachalot nommé Elliot, bien plus curieux, bien plus explorateur, a même cherché à l'approcher carrément, à l'apprivoiser dans son langage, c'est-à-dire en l'interpellant avec des clics et en lui faisant de douces avances amicales, je vous rassure. Écoutez, ça vaut le détour.
Nous étions avec mon ami René Euzé en plein océan, et tout d'un coup, Elliot, cet explorateur, jeune mâle, qui avait à l'époque 7 ans, est venu vers nous et il a commencé à danser pour nous. Et donc, Elliot s'est mis face à moi et a émis 40 fois de suite cette fameuse coda de 8 clics, qui, encore une fois, est associée à cette demande de contact physique. Ce qu'il y a d'extraordinaire là-dedans, c'est que d'abord, ça a duré 10 minutes, et il a tenté de m'apprivoiser dans son langage. J'étais à sa merci, c'était sa décision de rester là. Et il ne serait pas resté là s'il n'était pas bien. Et il n'aurait pas émis ce type de coda, il aurait émis ce fameux grincement, et puis après il s'en serait allé. Alors que là, il a émis ces types de coda, destinés uniquement normalement à un congénère, et a insisté avec toutes sortes de contorsions pour encore une fois, j'interprète ça comme m'apprivoiser. Et donc, ce renversement des rôles, celui qui, maladroit, voulait étudier l'autre, est étudié par Eliot, et celui...
Et Eliot qui vous fait... a demandé quoi ? Un contact physique, en fait, une caresse, une approche.
Si j'associe ces codas à ce que je vois chez les autres Cassalot, c'était une demande de contact physique. Et là, ce qu'il y a de bouleversant, encore une fois, c'est qu'on se retrouve comme dans un miroir. C'est lui qui tente d'apprivoiser. Nous croyons-nous, les hommes, que nous avons le monopole de l'envie d'apprivoiser les dauphins ou les chèvres. Pas du tout. Les animaux, eux aussi, ont envie d'apprivoiser la différence, l'autre.
L'énorme cachalot Eliot voulait apprivoiser le petit humain François Sarano.
Voilà. Parce que c'est un individu particulier. Et ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, qui me plaît beaucoup, c'est que, bien évidemment, Eliot ne me comprendra jamais. Et moi, je ne comprendrai jamais Eliot. Et malgré tout, ce qui a été intéressant là-dedans, c'est bien que nous ne comprendrons jamais, nous ne nous comprenons pas. Nous avons trouvé la distance juste qui nous permet de vivre bien en paix ensemble. Et il me semble que c'est ça une leçon intéressante. L'important n'est pas de se comprendre. L'important, c'est d'écouter l'autre et de vouloir se comprendre. Et à ce moment-là, on trouve toujours la distance pour vivre en paix.
Magnifique témoignage, presque une leçon de vie hein, de François Sarano et de son ami le cachalot Eliot.
C'est le grand spécialiste de l'interaction proximale avec ces énormes cachalots, ces énormes cétacéadents qui eux aussi font des clics comme les chauves-souris. Voilà, parce que par contre, la baleine bleue, elle fait des infrabasses. Bon, ce qui est super
pour pouvoir communiquer sous l'eau.
Absolument. Mais ce qui est super intéressant, c'est qu'il est question de la modalité tactile. Pour ça, elle est commune à tous les mammifères, ou quasiment tous les mammifères. Et c'est à la base d'une théorie psychophysiologique, c'est-à-dire neuroscientifique, dite de l'attachement. C'est-à-dire que les premières modalités d'interaction de la mère et du petit, ou plutôt du petit à la mère, chez les mammifères, ça passe par le toucher, parfois l'olfaction, quand il s'agit d'animaux à olfaction importante, ce qui n'est évidemment pas le cas du cachalot. Et ça, c'est une espèce de pattern comportemental commun à tous les mammifères. L'attachement commence par le contact tactile. C'est pour ça, par exemple, que les gorillons ou les bébés chimpanzés ont beaucoup de mal à survivre quand leurs parents ont été massacrés, parce que après, les soigneurs doivent être des mères de substitution ou des pères de substitution,
les
en les portant
les
dans des harnais, les caresser, etc., parce qu'ils sont accrochés à la mère pendant très longtemps. Et donc, ce que dit Sarano, c'est qu'il y a une possibilité de contact, de trouver une espèce de zone d'intersection entre notre monde et celui du cachalot, parce qu'on reste des mammifères. Après, ça ne veut pas dire qu'on comprend tout du monde du cachalot, mais il y a quand même des intersections, des points de contact entre ces niches sensorielles.
C'est ça, et c'est ce que je trouve passionnant. Il nous parle aussi de l'arroseur arrosé, finalement, parce que c'est lui qui va étudier les cachalots et il se retrouvera à être étudié ou adoubé par un cachalot.
Ça inverse la perspective.
Ça inverse la perspective. Et c'est vraiment, cette question. Voilà, ça nous sort de l'anthropocentrisme, ça nous fait réfléchir aussi sur nos rapports humains, parce que finalement, si on va un peu plus loin, on a tous besoin de se toucher et d'être touché. Ça, c'est clair en tant que mammifère.
Voilà, et effectivement, et c'est en distanciation, cette modalité.
C'est compliqué.
Voilà.
Et puis l'autre en face de nous, a les mêmes sens que nous, mais enfin, Benoît Grison, vous êtes quelqu'un d'autre et peut-être que je ne peux pas être dans votre tête ni dans votre cerveau, mais on peut, à défaut de se comprendre, on peut s'écouter, s'entendre. Il y a quand même quelque chose comme ça.
Trouver une sorte d'interzone où on peut quand même comprendre une partie du monde subjectif de l'autre. Parce qu'on peut dire que les animaux, du moins les animaux à cognition sophistiquée, ont un monde subjectif, une vision du monde propre. Voilà.
C'est pour ça que vous avez eu envie d'écrire ce livre aussi, pour nous dire chacun a un monde subjectif qu'on n'imagine pas, qu'on ne peut pas imaginer.
Bien sûr, et puis ça nous fait relativiser des choses, y compris d'un point de vue, je dirais, vision du monde. C'est-à-dire que c'est le philosophe Kant à l'aube des Lumières qui disait déjà, en fait, l'idéal, ça serait d'avoir les perceptions sensorielles de tous les animaux mêlés. Et même là, on n'aurait pas une perception exhaustive du monde. Donc, ça nous rend un peu plus modeste, un peu moins anthropocentrique, cette notion de niche sensorielle, de monde sensoriel propre pour chaque animal, qui n'est pas supérieur ou inférieur.
C'est ça. Il n'y a pas de supérieur ou d'inférieur. C'est différent.
C'est différent.
Et nous, on n'est pas au-dessus de tout ça.
Non, voilà. On a des points forts, des points faibles d'un point de vue sensoriel, d'un point de vue cognition sensorielle, perception sensorielle. Et parfois, on établit des connexions, mais alors artificiellement, à travers la culture. Il y a un phénomène culturel qu'on oublie toujours, la domestication. On a sélectionné le chien, un peu moins le chat. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est que cet ancien loup a changé sa cognition par sélection génétique, hein, des premiers chasseurs-cueilleurs. Par exemple, maintenant, il est capable de faire ce qu'appellent tous nos enfants les yeux Disney. Il est capable d'être implorant, le chien. Voilà. C'est parce qu'il a un muscle par sélection artificielle supplémentaire qui lui permet de soulever l'œil, la paupière comme ça, comme ne peut pas le faire
et
le
loup. Et de nous attendrir,
donc,
absolument.
Et on l'a adapté à nous, adapté à notre propre niche sensorielle par sélection artificielle, le processus de domestication. Ce qui veut dire aussi, entre parenthèses, que le chien est une sorte d'être culturel, pas seulement naturel.
Et oui, pas seulement, voilà. Même si lui aussi, il a d'autres sens et il perçoit avec tous ses sens.
Bien sûr.
Autour de la question, justement, comment les autres animaux perçoivent le monde, on a choisi, allez, en clin d'œil, il y a aussi des petits chapitres sur les rats qui rigolent quand on les chatouille, ou les chimpanzés particulièrement blagueurs. On a choisi de vous passer entre les deux oreilles un morceau, comment dire, pas piquer des vers, hein, c'est ça. Ce sont les rois de la Suède qui nous enchante avec les animaux sont des cons.
Allons-y.
Les enfants y sont fascinés, il est trop formidable. Mais même un chien d'aveugle sait pas lire quand il y a des travaux. Gros minable, il ira jamais acheter des jouets un samedi avant Noël. Il rangera jamais sa niche, il videra pas le lave-vaisselle. Là, il a pas lu jusqu'au bout, ni pif ni snoopy. Il ira jamais promener le chien, puisque c'est lui. Les enfants vous aiment bien, mais les enfants c'est pas malin. Ils savent pas couper leur viande. Ah, les animaux c'est des cons, à part le facteur cheval qui a fait une jolie. Sur Thierry l'ermite et peut-être Didier Bourdon. Est-ce que les zèbres font des trucs contre le réchauffement planétaire? Ben non, ils mettent juste de la crème solaire chelou qui marche une fois sur deux. Est-ce que les bébés phoques font quelque chose contre les crises financières? Ben non, ils s'engraissent en fabriquant des manteaux luxueux. Oh, les animaux, vous êtes des gens sur qui on peut pas compter. Je ferai plus confiance à un sourd qu'un caniche pour me faire coiffer. Les enfants,
les animaux sont des cons, les rois de la Suède, ou plutôt les rois de l'absurde sur RFI. Autour de la question, je vois que ça vous fait rire, Benoît Grison, vous êtes l'auteur des Portes de la perception animale aux éditions Delachaux et Niestlé. Autour de la question, jusqu'où nous entraîneront justement tous ces univers sensoriels des autres animaux, je propose un tout dernier éclairage d'un de nos plus éminents éthologues et chercheurs en neurosciences, Boris Cyrulnik, qui était récemment notre invité et qui nous a dit être très curieux de votre travail. On l'écoute tout de suite.
Alors oui, il faut absolument qu'il nous fasse découvrir les mondes animaux. Parce que le monde n'existe pas, il n'existe que pour soi. Chaque être vivant a son monde. Le monde d'une abeille n'est pas le même que celui d'un chevalier gambette. Je crois que c'est un petit oiseau blanc. Donc ça veut dire que notre cerveau sélectionne des informations. Et c'est cette réduction qui donne forme au monde qu'on perçoit. Si on ne sélectionnait pas, si on ne réduisait pas les informations, on serait bombardé de millions, de milliards d'informations, on serait confus, le monde n'aurait pas de forme. Donc on est obligé de réduire le monde pour le percevoir. Et on fait la même chose, nous humains, avec les mots. On réduit le monde, on lui donne une forme verbale, et à ce moment-là, on voit le monde. Les mots servent à voir le monde, d'où la nécessité des artistes, d'où la nécessité des gens qui fabriquent des mots. Donc ça veut dire que le monde qu'on voit, c'est un monde construit. Et je suis impatient de lire les mondes animaux qu'il va nous faire découvrir, parce que ça, c'est une exploration passionnante, et plus on comprendra les animaux, plus on comprendra les mondes humains.
Vous êtes d'accord, j'imagine, Benoît Grison, avec Boris Cyrulnik, c'est ça aussi votre moteur de recherche?
Oui, ce qui pose comme question, Boris Cyrulnik, c'est la perception subjective du monde. Effectivement, le monde, notre monde, et celui de l'abeille, il est construit. L'abeille, par exemple, on peut dire, elle nous est très supérieure, ce qui est aussi absurde que de dire qu'on lui serait supérieure. Pourquoi elle nous serait très supérieure? Elle perçoit les ultraviolets. Et les plantes à fleurs qui ont coévolué envoient des signaux ultraviolets pour la pollinisation qu'on ne voit absolument pas, nous. D'un autre côté, cette malheureuse abeille, elle ne voit pas le rouge. Nous, nous voyons le rouge. Donc, tout ça, ça n'a pas de sens de hiérarchiser. C'est des mondes. Et effectivement, c'est des constructions du monde qui sont aussi valables les unes que les autres, qui peuvent être en partie complémentaires, parfois communiquées. Et voilà, c'est fascinant. Et puis voilà, ça nous décentre. Et donc, ça nous sort du pseudo-trône de roi de la création sur lequel on serait assis. Parce qu'en fait, on fait tous partie d'un grand corail, pour reprendre cette métaphore de Darwin.
Oui.
C'est-à-dire, pour lui, l'évolution, c'est pas qu'un arbre, c'est très, très dimensionnel, enchevêtré, c'est tout un tas de lignées animales qui parfois ont échangé des gènes horizontalement et c'est le corail de la vie.
Dans ce corail de la vie, cher Benoît Grison, je vais encore vous faire écouter un petit son parce que j'y résiste pas. Un petit son qui va nous rapprocher des araignées. Ce sont des chercheurs américains du MIT qui ont retranscrit, alors en notes de musique sur des fréquences audibles pour nos oreilles humaines, des vibrations ressenties en ultrasons par les pattes de l'araignée sur sa toile. Regardez ce que ça donne. Sont très cristallins. Bon, c'est fascinant. C'est une manière pour nous de nous approcher de ce que peuvent peut-être ressentir les araignées sur leur toile.
Oui, bah oui, les araignées ont des tas de récepteurs sensoriels, notamment au niveau des pattes, aux vibrations mécaniques. Alors, c'est tellement vrai que Dufour, qui était un naturaliste du 19e siècle, spécialiste des araignées et des insectes, les avait fait réagir à un diapason. Mais maintenant, ce qu'on sait, c'est que pour certaines espèces, se tromper de fréquence vibratoire peut être mortel pour le mâle. Parce que certaines espèces voient le mâle faire sa danse d'amour dans la toile de l'araignée, selon un certain pattern, c'est en certaines fréquences. Mm-hmm. Et s'il se trompe, à ce moment-là, elle l'identifie comme une proie, et non pas comme son partenaire
et
sexuel,
elle le mange.
Donc c'est
de
vivre dangereusement.
D'être au diapason quand on est une araignée.
Tout à fait.
Après cet énorme voyage, qui n'est pas fini, hein, que pour les portes de la perception animale, Benoît Grison, parce qu'on voit bien que vous êtes incollable sur n'importe quel animal. Allez, si vous vous réincarniez, je ne sais pas, dans un autre animal un peu moins humain que celui que vous êtes aujourd'hui, vous seriez qui?
Peut-être un narval, hein. Qui arrive à percevoir l'océan dans ses caractéristiques physico-chimiques comme un océanographe naturel, percevoir la salinité, la température, la pression de l'eau à travers sa dent hypertrophiée, du moins pour les mâles, hein, ce qu'on appelait autrefois la défense ou la corne du narval. Et ça, c'est fascinant aussi, comme umwelt, comme niche sensorielle. Percevoir directement les caractéristiques physiques du milieu à travers une dent. Il paraît même que le narval percevrait aussi les variations d'hormones sexuelles des femelles à la saison des amours avec cette même corne, c'est-à-dire cette dent hypertrophiée. Fabuleux.
Génial, la bulle sensorielle du narval. Merci infiniment, Benoît Grison, d'être venu en direct nous entrouvrir, parce qu'il y aura encore beaucoup à dire.
Oui.
Vous recommencerez, vous reviendrez.
C'est un voyage sans fin.
Absolument. Nous entrouvrir les portes de la perception animale, c'est le titre de votre livre, franchement génial, qui vient de paraître aux éditions de La Chaux et Niesley, très joliment illustré par Arnaud Raphaëlian. Ils sont donnés à cœur joie. Ouvrage qu'on lit, du coup, le sourire aux lèvres. Et ça fait du bien. Merci infiniment de nous avoir un
Merci
peu
encore.
Décentré, Benoît Grison. À bientôt.
À bientôt.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager, à nous réécouter sur l'appli RFI Plus Radio et bien sûr à vous abonner à notre podcast. Au plaisir de vous retrouver demain, chers amis auditeurs, sur les traces de l'art rupestre en Afrique. On l'ignore, mais l'Afrique est le continent de l'art rupestre, bien plus que l'Europe ou l'Amérique. Alors comment exhumer, étudier, préserver ce patrimoine vivant, artistique et préhistorique de l'humanité? Piste de recherche demain du Cameroun au Mali, de l'Afrique du Sud jusqu'à l'Éthiopie, avec Hugo Violas à la réalisation. Raphaël Plusque va en coulisses, Caroline Nachowski au micro pour vous servir. Merci pour votre curiosité sans cesse renouvelée. Gardez les sens et l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure de retrouver les informations.